France Inter.
Vous goûtez comme ça?
Oui, bien sûr.
C'est bon.
Aujourd'hui, on teste toutes les bûches de Philippe Cotechini. C'est parti.
On ne sait que choisir.
C'est vrai qu'il y a un embarras du choix.
Oh, deux desserts, c'est une bûche?
Non, c'est Cloug.
Ah non.
La magnifique bûche signature du chef. Vanille de Madagascar, vanille de Tahiti avec de la bergamote.
Waouh. Tout ce que j'ai pu mettre de ce que je suis dans ce que j'ai fait, ça passe.
En plus, moi qui kiffe trop la vanille, je vous jure que c'est vraiment trop bon. C'est une dinguerie.
C'est une catastrophe. J'adore le chocolat.
Reste avec moi. Tu pourras goûter ma mousse au chocolat.
On commence l'interview quand vous voulez.
C'est parti. On démarre en première vitesse.
Joyeux Noël quand même.
Et bon réveillon.
Bonjour à toutes et tous. Merci et bienvenue sur le plateau dont on va déguster. Nous sommes en public dans le studio 621 de la Maison de la Radio et de la Musique pour un pur moment de gourmandise et de partage à 3 jours du réveillon de Noël. Un peu de douceur dans un monde de brutes grâce à un grand, grand monsieur de la pâtisserie française. Un monstre sacré du sucré, une signature très reconnue auprès de ses pairs en France et dans le monde. Il a un atelier et 4 boutiques à Paris, 6 boutiques à Londres, et c'est l'un des pâtissiers français les plus suivis sur les réseaux sociaux. 1 million de followers sur Instagram, rien que ça, c'est
Philippe Cotechini.
Vous publiez, Philippe, le Noël gourmand de Philippe Cotechini, gâteaux, biscuits, oui, tartes et confiseries pour des fêtes étincelantes, c'est aux éditions Albin Michel. Et vous nous avez apporté quelques-unes de vos recettes de fêtes préférées qu'on va goûter, analyser, expliquer ensemble. Il y a même plein d'autres surprises gourmandes parce que vous êtes, bon, on le sait, hein, vous êtes connu pour votre générosité. Un grand merci d'être là, cher
avec
Philippe Cotechini.
Grand plaisir, merci à vous.
La pâtisserie, il aime la déguster, mais il aime aussi la raconter, au risque de le faire la bouche pleine. C'est Loïc bien assis. Non, c'est pas Loïc Cotechini. Vous êtes notre historien de l'alimentation et de la gastronomie. Et grâce à vous, on ne va pas manger ces douceurs idiots. Vous allez nous raconter un certain nombre de choses sur la bûche, notamment.
Voilà, de quoi briller le soir du réveillon.
Absolument.
La petite anecdote sortie au bon moment, grâce à moi.
C'est parfait. Elle n'aurait pour rien au monde manqué cette émission sucrée. Les desserts, c'est son truc. On l'a vu d'ailleurs dans notre vidéo à 80, toute récente, sur les réseaux sociaux de France Inter. Une vidéo de Lemon Pudding qui a atteint plus d'1 million de vues sur le compte Instagram de France Inter. C'est ma complice de toujours, Elvira Masson, bonjour.
Bonjour à toutes et tous. C'est vrai que je suis un bec sucré, on va pas se mentir.
Oui, évidemment, et vous êtes tellement un bec sucré que vous allez faire goûter quelque chose de sucré à Philippe.
Avec joie.
Ah, vous nous en dites pas plus, hein?
Ah si, ah, c'est une douceur un peu singulière, et je vais vous parler aussi de projets à soutenir.
Très bien, elle s'occupe en alternance avec Jérôme Gagnez du service des boissons dans notre émission. On est très content qu'elle soit là, c'est Justine Knapp, bonjour.
Bonjour.
Ça va Justine?
Tout va très bien.
Alors quelle boisson de fête?
Eh bien, premier indice avec ce verre devant vous.
Oui.
Rouge cerise profond. Une boisson longtemps réservée à la sphère domestique.
Vous allez nous faire goûter ça. Retrouvez d'ores et déjà les recettes festives de Philippe Cotechini, nos infos, nos adresses, nos émissions, ainsi que toutes nos chroniques sur franceinter.fr à la page On va déguster.
France Inter, François-Régis Gaudry, On va déguster.
C'est bientôt le réveillon et je vous sers une petite surprise gourmande pour attaquer cette émission. Alors j'ai invité pour l'occasion 2 dégustateurs et dégustatrices de notre public. Salut Maxime.
Bonjour.
Quel âge tu as ?
J'ai actuellement 23 ans, diplômé d'école hôtelière. Et je commence à rechercher un master pour l'année prochaine et je recherche du travail aussi actuellement pour travailler durant cette année.
Et tu es particulièrement gourmand ?
Exactement, très gourmand depuis mon plus jeune âge, que ce soit au niveau des viennoiseries, des pâtisseries. J'ai voulu moi-même devenir pâtissier quand j'étais plus jeune, mais j'ai découvert l'hôtellerie grâce à ça. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup suivi le chef Cotechini quand j'étais plus jeune. Mais je garde toujours une passion pour ça et j'en fais toujours aujourd'hui.
Parfait, ben, tu vas goûter cette tranche de bûche que tu as sous ton micro. On a également Sophia avec nous.
Bonjour.
Ça va Sophia?
Oui, ça va.
Est-ce que tu peux te présenter?
Je m'appelle Sophia, j'ai 14 ans. Et je suis en troisième.
Et oui, c'est une des nombreuses stagiaires de troisième qui gravitent dans les couloirs de France Inter et on en est très heureux. Tu aimes manger?
Non, pas encore.
Mais tu aimes manger sinon. Alors, voilà, t'es en train de la goûter.
Oui.
Qu'est-ce que tu en penses?
C'est super bon.
Ah, bonne nouvelle.
On sent la noisette, je crois. J'aime beaucoup l'acidité aussi.
Oui, alors ça, il y a de l'acidité, c'est très intéressant de le remarquer. Qui veut prendre la parole, Justine ?
Autour, on a effectivement un gel qui donne un petit coup d'acidité, peut-être fruit de la passion, enfin voilà, quelque chose d'assez acidulé. Et puis au centre, c'est très crémeux, il y a presque des touches peut-être de miel, noisette, ça me semblait aussi une bonne piste.
Ouais. Philippe, tu vas goûter ?
Je vais goûter.
Ah.
J'y vais ?
Ouais.
En direct. Alors je vais prendre un petit peu de tout, et puis je vais mettre dans la bouche. Alors je parle pas la bouche pleine, hein, donc... La première chose, pour moi, hein, c'est bon ou c'est moins bon ? C'est très bon.
Ah, on a eu peur.
C'est très bon.
Il dit ça en faisant une grimace en même temps.
Non, mais parce que c'est pour blaguer par rapport à François Régis. Non, c'est très bon. Après, une fois qu'on a dit que c'est très bon, il faut expliquer pourquoi ou pourquoi pas. Alors effectivement, il y a une sorte de gel autour,
oui,
acidulé, qui est bienvenu.
Mm-hmm.
Alors, je ne vais pas vous dire que ça amène de la fraîcheur, non. Par contre, ça amène une petite pointe acidulée qui se marie très bien et surtout qui fait que l'intérieur... qui est, on va parler d'assaisonnement, même si c'est un mot un peu à la mode, qui est assaisonné de façon un peu soft, ça permet de relever l'ensemble des goûts et d'avoir quelque chose d'un petit peu plus long, un petit peu plus puissant en bouche.
Ouais.
Donc, c'est très bien vu.
Il y a beaucoup de gourmandises.
Du côté régressif, je trouve.
Parce le biscuit que est très bon. Hein.
C'est régressif. Ouais, pourquoi c'est régressif, Loïc ?
Parce que c'est très riche, quoi, cette mousse. Et, ça fait partie du plaisir, là, je trouve.
Maxime ?
Ce goût un peu acidulé, ça, moi, ça ne me plaît pas forcément sur ce genre de dessert, surtout pour Noël. C'est plus, j'aime bien la gourmandise du chocolat.
D'accord.
Ou la vanille, on peut en parler. Mais après, c'est quand même assez crémeux avec un bon biscuit au milieu.
Ouais.
Donc, moi, c'est quelque chose qui me plaît quand même.
C'est un biscuit à l'amande, je pense. Il y a des morceaux d'amande légèrement blanchis, l'amande blanche sur la peau. Il y a de l'orange, une sorte de confit d'orange qui est gélifié.
Il y a de la rondeur aussi,
ouais,
qui pourrait être apportée par de la vanille, parce que de toute façon, on distingue aussi des petits points
alors
noirs.
Là, effectivement, c'est blindé de vanille. Je vous donne la solution des jeux. Un biscuit moelleux aux amandes, une marmelade d'orange... Un riz au lait à la vanille, oui, mais on sent pas trop la texture du riz au lait, c'est voulu. Et il y a également une mousse crème brûlée à la vanille foisonnée. Voilà, et ça donne une bûche pour 6 personnes, au prix de 31 euros, qui est quand même une bûche d'un bon prix aujourd'hui quand on connaît le prix des bûches. C'est la bûche riz au lait, agrumes, et c'est la création, très fruitée, d'une boulangerie qui s'appelle la boulangerie méditerranéenne, qui a été ouverte par quelqu'un que vous connaissez bien,
Elvira,
si je vous dis, un journaliste, art de vivre, reconverti, qui a obtenu un CAP boulangerie à Ferrandi.
Il s'appelle David Batty.
Bravo.
On l'a longtemps côtoyé, il était journaliste dans la presse magazine, très spécialisé dans l'art de vivre et la gastronomie en particulier.
Oui.
Il a opéré une reconversion très courageuse il y a quelques années. Il a ouvert cette boulangerie à Montrouge, mais je crois qu'il y a plusieurs adresses maintenant.
Exactement.
Il marche très fort.
Il y a une première adresse de boulangerie méditerranéenne, effectivement, à Montrouge. Une deuxième, 73 boulevard de Courcelles, dans le 8e arrondissement de Paris. Et ces boulangeries ont un succès fou.
Et ils pratiquent des tarifs très 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 raisonnables.
Très raisonnables. Et j'ai que des échos ultra positifs.
Bah, bravo à lui.
Mais oui, vraiment, bravo à lui. La bûche, cher Loïc, il a bûché sur le sujet et sur ses origines, comme le prouve ce petit document.
What is bûche de Noël?
It's a cake. Antoine Charabot, according to Pierre Lacam, invented the bûche de Noël in 1879.
Extrait d'un reportage sur la bûche de Noël.
What can I say?
Non, attendez. CBS News, quand même.
Eh oui.
La chaîne américaine.
Eh oui.
Comment vous dites Pierre Lacam ?
Pierre Lacam.
Pierre Lacam.
Mais c'est la bouche.
Alors, vous nous confirmez quand même qu'il s'agit bien d'un certain Charabot.
Ça,
vous l'avez prononcé vraiment à la française.
Je ne sais plus ce que j'ai dit. J'étais en transe, en fait. Quand je parle en anglais, je ne sais plus ce que je raconte. Oui, alors, du coup, je ne sais plus quoi dire. J'avais tout dit, là. C'est-à-dire que... Si, quelques précisions, quand même. Alors... L'association entre Noël et la bûche est ancienne. Il y avait tout un tas de, je vais appeler ça du folklore, dans les campagnes autour, alors de la bûche en bois, hein, la vraie. C'est sans doute ça qui a donné l'idée d'adapter la bûche sous forme de gâteau à la fin du 19e siècle. À vrai dire, chose étonnante, la première recette que moi j'ai identifiée, c'est en 1889. Et la bûche est présentée comme un gâteau. C'est dans un numéro de revue de février. Et on parle d'un entremets de fantaisie, c'est-à-dire sans lien avec Noël. Mais très rapidement, dès l'année suivante, 1890, là, on voit apparaître dans la même revue, qui s'appelle L'Art culinaire, une recette de bûche de Noël. Donc, bûche de Noël...
Non, pardon, bûche de Noël.
Oui, sorry. Et donc, on a cette bûche de Noël, donc, qui est une création parisienne. Et chose intéressante, c'est pas parce qu'on imagine la bûche traditionnelle que c'est un gâteau roulé.
Et en fait, non, ce sont des tranches de biscuits à la cuillère qui sont collées ensemble par de la crème mocha.
Oui.
Et recouvert le tout de crème mocha que, sur lequel on gère, qu'on griffe pour donner cette apparence de bûche, évidemment.
Avec une écorce.
Absolument. Donc, on a cette première recette en 1889. Mm-hmm. On voit que la bûche est donc appelée bûche de Noël en 1890. Et en 1893, Pierre Lacam, ou Pierre Lacam, pour les intimes, dans Le glacier classique et artistique, en français, en Italie, explique « L'on n'a jamais pu savoir qui avait créé la bûche de Noël. On l'a donnée à toutes les maisons. Et à force de chercher, j'ai trouvé que ce fut un nommé Antoine Charabot, hein, donc, chef chez Monsieur Sanson, 14 rue de Bussy, qui créa la branche d'arbre en 1879. Lacam, il faut toujours faire attention à ce qu'il dit, mais en l'occurrence, je crois qu'on peut le croire. Donc, invention parisienne, 1879, pas une bûche roulée. J'ai trouvé la première recette que j'ai identifiée de bûche roulée, c'est 1900. Mm-hmm. Et ce qui est amusant, c'est qu'en 1893, on a aussi une recette de bûche glacée. Donc c'est vraiment simultané. Et donc ce système de tranches, c'est-à-dire qu'on colle ensemble, invention parisienne, et on voit que progressivement, on l'en trouve dans les pâtisseries de province dès le début du XXe siècle. Donc petit à petit, alors mécanisme habituel, ça conquiert, la bûche conquiert les villes, puis ensuite, progressivement, les campagnes. Et on arrive à ce dessert de Noël national dans la deuxième moitié du XXe siècle.
Et on arrive surtout à la bûche de Philippe Contessini. Car Philippe Contessini a signé une collection de 4 bûches, c'est ça ?
Oui, absolument.
Qui ont le mérite de ressembler à des bûches.
Oui. Enfin, moi j'aime bien, ça c'est très personnel, hein. Comme on dit, bûche, que ce soit au moins cylindrique. Mais après, Noël c'est un véritable exercice de style, hein, pour nous les pâtissiers. On y fait, on y trouve, on y déguste des pâtisseries incroyables. Visuellement magnifiques et gustativement toujours incroyables. Enfin, souvent très intéressantes.
Qui peut me décrire, allez Justine, cette bûche visuellement et gustativement ?
Bah visuellement, en fait c'est noir, c'est presque noir de vanille. C'est tellement parsemé de petits grains qu'on sait tout de suite qu'on va être saisi par l'aromatique. Et c'est un peu ça, c'est qu'en le prenant, sans vouloir en faire trop, en fait, j'ai l'impression de tomber à la renverse tellement c'est puissant,
vous en faites
aromatique.
Pas trop, là, c'est bien.
Non mais c'est over vanille, c'est un...
C'est un délire.
Ah non mais c'est une bourrasque, c'est un truc incroyable.
On est plus sucré.
Maxime, c'est plus votre...
C'est plus mon dada, je pense.
Il a l'air assez exigeant.
J'aime beaucoup ça.
Du haut de ses 24 ans, c'est bien.
Ça vous convient, Maxime ? Ça ira.
D'un point de vue texture, c'est super. Il y a cet aspect croustillant que j'aime beaucoup avec l'insert, mm-hmm. qui s'allie parfaitement avec la mousse également. Et ce goût de vanille que j'aime tant en pâtisserie, franchement, c'est... Je pourrais manger nuit et jour, je pense.
Ou carrément, c'est démoniaque, Sophia ?
Franchement, j'adore la bûche. J'aime beaucoup la vanille, c'est délicieux.
Bravo. Non, franchement, là, vous marquez des points. Pas besoin d'en marquer, Philippe Contessini, mais alors cette bûche est absolument démoniaque.
Avec un jeu de texture vraiment épatant, quoi, entre le biscuit. Qu'est-ce qu'il y a entre le biscuit et la mousseline ? Il y a un petit insert.
En fait, il y a une crème mousseuse qui est à la vanille. Il y a une sorte de crème fondante qu'on appelle plutôt crémeux, mais crème fondante qui est... Il y a un peu de vanille, un peu beaucoup même.
Ouais. Un peu, selon Philippe Contessini, c'est beaucoup quand même, non ?
Et puis, il y a un biscuit qui est très dense pour le coup, ce qui est très humide, il y a beaucoup d'humidité. Vous savez, on dit toujours humidité égale fondant, enfin on dit toujours, c'est moi qui le dis d'ailleurs, humidité égale fondant et matière grasse égale moelleux. Là, ça se vérifie. Et on a surtout, c'est votre question, un confit de bergamote qui a été mis au point il y a 2 ans ou 3 ans par Gianni Spadafora, qui est mon chef exécutif, qui est là. Et quand je l'ai goûté, je lui ai dit, putain, Gianni, j'ai vraiment réalisé un truc top. Et donc, je me suis approprié. et puis voilà, donc on l'a intégré à la bûche. Et je trouve que ça se marie à merveille. Et surtout, ça donne un côté, j'aime pas ce mot de fraîcheur, mais de parfum qui reste longtemps en bouche.
Ça donne un relief, en fait.
Ça donne un vrai... Voilà, merci beaucoup, Elvira. Un vrai relief.
Oui,
voilà,
un
exactement.
Relief.
Qui vraiment se fond avec la vanille et lui donne un goût un peu différent et je trouve vraiment agréable.
Non, cette bûche,
épatant,
on va pas dire qu'elle nous laisse bûche bée, mais...
Bah, si on peut.
Si on peut. Elle est absolument incroyable. Franchement, voilà. elle est totalement dingo. Alors, on va quand même laisser, évidemment, Maxime et Sophia finir leur assiette, mais on les remercie pour leur expertise. Vous avez été de parfait dégustateurs et dégustatrices derrière la vitre de la régie pour mitonner ce réveillon sucré. Laurent Thomas, Guillaume Roux à la technique, Fabrice Rivaud qui m'aide à préparer l'émission, à la programmer. On va retrouver notre invité, Philippe Contessini, juste après Splash. Écoutez bien, j'adore ce titre de l'artiste française Maïra, choisi par Djoubaka sur la playlist de France Inter. Joyeuses fêtes à tous et toutes.
Debout, j'adore ta soirée, elle fait des tresses, le week-end.
dans tes termes. Cash dans la team, sweet pussy. God damn, ça me fascine. Oui, ça me plaît. À faire le chignon en pyjama. Ça sent les vagues dans les draps. À la fraîche de la tête d'eau. Elle sent le parfum Sephora. Douce comme un ferrero, c'est cute, c'est délicieux. L'a mis le top en coquillage, trop fraîche, pas de maquillage. Son petit crop top, rétro, c'est trop lolo. Bébé, big brains, gros lolo. Son body, c'est pas un film d'auteur, c'est un blockbuster. Debout, ça dure la semaine. Elle fait les tresses le week-end. Dans tes termes, cache dans le team, sweet pussy. God damn, ça me fascine. Oui, ça me plaît. À faire le chien en pyjama. Ça sent les vagues dans les draps. Que du chata, baby, pas de bachata. Que du chata, baby, pas
il faut
de bachata.
Je le fais.
Que du chata, baby, pas de bachata.
Il faut
que du chata. Debout, j'adore la soirée. Elle fait les tresses le week-end. Bon diable, pas tout seul. Splash dans tes termes. Cache dans la team, sweet pussy. God damn, ça me fascine. Oui, ça me plaît. Elle fait le chignon en pyjama. Ça sent les vagues dans les draps.
Cette période de fête, de rire, de sourire, de gourmandise et d'amour, a toujours été pour moi à double tranchant. Vous entamez, Philippe Contissini, l'introduction de votre livre « Le Noël gourmand de Philippe Contissini » chez Albin Michel, en écrivant cette phrase. Expliquez-nous.
Ouais. En fait, c'était un moment, comme j'imagine beaucoup d'enfants, que j'attendais avec impatience. Mes parents étaient restaurateurs. Et ils avaient un restaurant, alors ils en ont eu deux ou trois, mais notamment à Villemomble, dans le 93, qui à l'époque n'était pas le 9-3. C'était très pavillonnaire, Villemomble, très très pavillonnaire. Et à force, on va dire, de travail, ils sont arrivés à faire un restaurant gastronomique. Mmh. Et ma mère faisait ce qu'on appelait à l'époque la nouvelle cuisine. Alors, tout ça, c'est génial pour eux, sauf qu'ils travaillaient tout le temps. Tout le temps. Et ils avaient le dimanche soir de repos. Donc, autant dire que je les voyais jamais, quoi. Et à la période de Noël... Mis à part dans le restaurant où il y avait un gros sapin. Alors, il y avait un sacré sapin. À la maison, bah, il n'y en avait pas. Ou alors, c'était tout petit. Mais même s'il y en avait un petit, enfin, je crois qu'une fois ou deux, c'est arrivé. Le problème, c'est que j'étais tout seul, moi, à Noël. Alors, le lendemain, soir, c'est-à-dire le 25 au soir, mm-hmm. parfois, il y avait un repas avec peut-être un oncle, une tante. Ou... Mais il n'y avait pas de fête en famille, vraiment. Même si j'ouvrais des cadeaux, quand même, hein, le 25. Mais ceci étant dit, je me suis dit très tôt, un peu plus qu'adolescent, qu'un jour... Si un jour j'avais une famille, des enfants, ou un enfant, une femme, enfin n'importe quelqu'un que j'aime, quoi, je créerais avec cette personne-là une atmosphère qui me donne l'impression d'avoir toujours vécu Noël et d'avoir eu des souvenirs incroyables à Noël. C'était important pour moi.
Vous m'avez envoyé par SMS une photo de sapin de Noël dans le salon de Philippe Contissini. Oui. Mais il est monumental, il touche le plafond.
Oui, il fait près de 2,20 m.
Ah oui, c'est ça.
Avec l'étoile, oui, près de 2,20 m.
Oui, donc vous avez eu besoin de vous reconstituer cette atmosphère de Noël qui vous a sans doute manqué dans l'enfance.
Ah, absolument. Et depuis 30 ans, ça fait 30 ans que je suis avec ma femme, avec Titou. Depuis 30 ans, on fait des grands sapins, quoi. Et avec plein de guirlandes lumineuses, avec plein de trucs, plein de couleurs. Voilà. Et ça, c'est hyper... Et puis surtout, plein de cadeaux. Il y en a déjà plein, personne n'y touche, mais il y a plein de cadeaux au pied du sapin Et je trouve ça génial, quand je rentre à la maison, c'est un bonheur. Quoi.
Est-ce que les muscadines s'invitent à la fête de temps en temps ?
Quand j'en fais, oui, absolument.
Parce qu'alors on démarre avec une première recette que vous avez dans vos assiettes. Ça s'appelle la muscadine, oui. Une petite truffe coquine et mutine.
Ah, c'est joli ça, excellent.
Une bûchette ? Une mini bûche ?
Non, c'est un...
Mais ça ressemble à un petit fagot, je veux dire.
Un vrai bonbon, oui, absolument. C'est un vrai bonbon. Hein. Ouais. En fait, à la base, ça s'appelait... Enfin, à la base, ce que j'ai appris, parce que moi, je l'ai appris, en fait, chez Lucien Pelletier, qui était un grand pâtissier, et il faisait, entre autres, en chocolaterie, des muscadines.
Alors, n'en dites pas trop, parce que nous a rejoint Maggie. Comment ça va, Maggie ?
Bonjour, ça va et vous ?
Présente-toi au micro.
J'ai 14 ans et je suis en stage de 3e.
Dans quel établissement ?
À France Inter.
Dans quelle école ?
Je suis au collège Georges Brassens dans le 19e arrondissement.
Très bien. Alors Maggie, tu as ces petites muscadines. Essaye de nous dire ce que tu en penses et éventuellement de deviner quelques ingrédients qui la composent.
Alors déjà, c'est super bon.
Ah, bonne nouvelle.
J'ai l'impression qu'il y a du chocolat noir.
Oui.
Je sais pas, j'ai eu un peu de goût de caramel, mais je m'y connais pas trop.
Il y a un petit côté fondant, en effet.
Ouais, ouais.
Moi, ce que j'aime bien, c'est cette petite coque cassante.
Craquante.
Et puis, beaucoup de moelleux.
Ça fait presque penser à l'intérieur, quand on prépare un gâteau au chocolat et qu'on prend la cuillère, la pâte crue. Ça me fait un peu penser à ça.
C'est bon, ganache, un peu.
On est clairement dans la ganache.
Oui, ah. Oui, dans la ganache, mais il n'y a pas de caramel, mais ça peut y faire penser. La muscadine, si je peux me permettre, hein,
mais évidemment.
C'est revu et corrigé par Lucien Pelletier à l'époque, parce que normalement c'est une cerise confite avec de la pâte de marron et enrobée de chocolat.
Parce que là vous évoquez un grand pâtissier de la rue de Sèvres à Paris, dont vous avez été le commis en
1984-5 et un peu 6. Et où j'ai, pour moi, rencontré le pâtissier qui a réellement marqué ma carrière. Et quel honneur pour moi quand il est venu manger à l'époque à la table d'Anvers, restaurant qu'on avait ouvert avec mon père et mon frère. Voilà, c'est extraordinaire. Bref, il avait lui repris le muscadin qui vient de Tours, avec cette cerise marron. Il avait appelé ça la muscadine et lui faisait beaucoup de pralinés, un peu de chocolat, de la crème, tout ça un petit peu refroidi à
tiède.
D'où
le ganache, hein, chocolat et crème, Loïc.
Voilà. Il incorporait, il y avait beaucoup plus de praliné que de chocolat, il incorporait du Cointreau quand c'était tiède et surtout...
Ah, la liqueur d'orange amère.
Du Cointreau, absolument. Et surtout, au fouet... Et pas au batteur, au fouet, pour incorporer beaucoup d'air qui permettait de tenir la masse, parce qu'il n'y a pas beaucoup de chocolat, pas beaucoup de beurre de cacao. Et après, on boulait ça oblongue, de façon oblongue, trempé dans le chocolat noir, le sucre glace, et ça donnait ces muscadines. Moi, ça me plaisait, je trouvais ça trop sucré. Mais ça me plaisait beaucoup. J'ai repris tout ça, et je les ai fait comme moi, je les trouve bonnes.
Et il y a un petit ingrédient mystère qui apporte énormément de gourmandise à ces muscadines, c'est de la noix de coco râpée.
En fait, autour, donc c'est du sucre glace, et moi je trouvais ça beaucoup trop sucré, donc j'y ai mis plutôt du codinège, il y a 40% de codinège, c'est du sucre glace avec un peu plus d'amidon, donc c'est moins sucré, 40% de fécule de maïs, et 20% de coco râpé. Tout ça ne se sent pas vraiment, coco un peu plus, mais surtout ça rend l'extérieur quasiment pas sucré.
Et pas d'alcool.
À l'intérieur, il y a un peu de Cointreau, mais beaucoup moins que dans la recette de base.
Mais c'est vrai qu'on sent juste un petit côté écorce. Mais...
Oui, donc voilà, il y a un petit goût de Cointreau, mais léger, il y a ce petit goût de praliné qui peut faire penser au caramel, voilà.
Les muscadines, à la page 28 de votre livre, Chocolat Noir, Coco et Cointreau, évidemment, vous nous faites l'immense plaisir de nous confier cette recette sur la page, on va déguster, sur le site franceinter.fr. Merci beaucoup, Philippe Conticini. Bah, du sucré, évidemment, il y en a, hein, puisque c'est tout le menu de cette émission de fête. Il y a une petite dégustation surprise qui est prise en main par Elvira Masson.
On va déguster sur France Inter.
Ma chère Elvira, une petite douceur à faire déguster à notre invité Philippe Conticini.
Alors Philippe, vous avez devant vous un petit verre.
Oui.
Le verre transparent avec une préparation qui est à l'intérieur. Alors c'est sucré, mais pas que sucré, peu sucré d'ailleurs.
Peu sucré.
C'est inspiré d'un produit qu'on connaît tous, avec un élément qui le singularise. Dans sa forme, j'allais dire conventionnelle, classique, il apparaît dans 37 occurrences de votre livre. Philippe, donc a priori, c'est quelque chose que vous ne détestez pas.
Dans praliné.
Oui.
À la base.
Voilà.
Alors, mais y a pas c'est que, du praliné en effet, mais c'est un praliné d'un genre très particulier.
Il y a un praliné, il y a de l'huile, et surtout il y a beaucoup de fruits secs, pas beaucoup de sucre.
Très peu de sucre.
J'ai l'impression que Justine a la réponse, elle a l'œil qui frétille.
Il y a quelque chose.
Non, mais est-ce que ce serait un praliné boulanger ?
C'est ça.
Bien joué.
C'est très bon. Petit craquant.
Et on la sent, la note de céréales.
Ah oui, c'est très torréfié. C'est un praliné composé donc d'amandes bio, de pain au levain, d'huile de pépins de raisin, de miel, un soupçon. C'est vraiment très peu sucré. C'est une préparation versatile qui peut s'utiliser aussi bien en salé qu'en sucré. Et un petit peu de sel. Son nom, pain liné.
Malin.
C'est joli ça.
Pain liné.
Très joli.
Pour recycler notamment du pain au levain.
Exactement. Il est confectionné par Justine Lebas, qui est créatrice culinaire, chef, boulangère, établie à Oudan dans les Yvelines, passionnée par le pain, les céréales, la fermentation. Elle anime d'ailleurs des ateliers formidables chez elle, dans sa très jolie maison, une fois par mois. Elle aime extraire tout le potentiel d'un ingrédient et valoriser les déchets. Elle a eu envie de gommer ce qui est pour elle le caractère un peu écœurant ou saturant qu'on peut parfois trouver dans le praliné. La torréfaction s'est faite au four à pain, aussi bien des amandes que de la chapelure de pain et de pain au levain, de restes de pain dont elle ne savait que faire. Elle est poussée au maximum, doucement, mais lentement, longuement. Et moi, je trouve ça assez singulier, intéressant,
gourmand.
Aussi bien sur du pain, donc un peu pain sur pain, dans un gâteau, en ajoutant du sucre. On peut imaginer avec un plateau de fromage, elle dit avec des légumes vapeur, en base de vinaigrette. Partout, on pourrait mettre du tahine, la purée de sésame, ou la purée d'amande. Elle vend son pain liné, 14 euros le pot de 300 grammes, ça dure longtemps et ça ne bouge pas, sur son site lebasjustine.com. Vous l'avez compris, Justine consomme en conscience et ne jette rien, comme on devrait tous le faire. Ce qui nous rappelle, on ne le sait que trop, que le gaspillage alimentaire est un grand classique des fêtes. Selon une étude réalisée en novembre 2023 à la demande de l'application anti-gaspi Too Good To Go, 8 Français sur 10 s'apprêtaient à gaspiller des produits alimentaires en période de fête. 14% de la population des 18-24 ans estimait gâcher plus d'un quart de la nourriture et 6 personnes sur 10 achètent plus d'aliments par peur de manquer. La peur de manquer à Noël, c'est vraiment un sentiment exacerbé dont il faudrait essayer de se déprendre et consommer peut-être plus en conscience. On s'est dit aussi, en préparant l'émission avec François Régis, que c'était un bon moment pour porter un éclairage sur deux associations qu'on suit depuis des années maintenant et qui nous tiennent à cœur. C'est le Réchaud, porté par Vanessa Krissev,
évidemment,
depuis bientôt 10 ans, et le Refugee Food, porté par Marine Mandrella depuis 10 ans également. Elles défendent toutes deux, avec leurs équipes, une idée simple, comme tout, changer le regard sur les personnes exilées ou réfugiées par la cuisine et faire de l'hospitalité un moteur d'insertion, de lien social et de dignité. Si je vous en parle là maintenant, c'est parce qu'en cette fin d'année, les associations sont en grande fragilité. Les financements sont de plus en plus incertains. Recul des subventions publiques et privées, appel à projets saturés, concurrence accrue. Résultat, une association sur trois risque de ne pas passer l'année. Pourtant, on sait à quel point le tissu associatif est un pilier essentiel de la cohésion sociale de notre pays, d'autant plus dans un contexte alarmant. Aujourd'hui, une personne sur six ne mange pas à sa faim et un quart des Français se sentent régulièrement seuls. Donc l'appel aux dons, aujourd'hui, c'est plus qu'une nécessité, c'est vraiment vital. En quelques points un peu clés, soutenir le Réchaud aujourd'hui, c'est agir concrètement pour pérenniser des ateliers de cuisine solidaire hebdomadaires dans le 18e arrondissement de Paris, en partenariat avec le Secours Populaire. Cette année, ce sont plus de 4000 repas qui ont été cuisinés, puis partagés avec les participants. C'est également déployer les tables des voisins du Réchaud hors les murs, des déjeuners conviviaux organisés dans des restaurants engagés pour lutter contre l'isolement, recréer du lien social au cœur des restaurants de quartier. Et du côté du Refugee Food, il y a une école de cuisine dédiée aux réfugiés, une école qui jusqu'à présent était nomade et qui ouvre en dur en 2026. Ce sera à la Fabrique de l'alimentation durable dans le 20e. Et une super opération qui va démarrer bientôt, juste après les fêtes. Galette solidaire, du 1er au 31 janvier. Pour chaque galette vendue, 1 euro est reversé à Refugee Food afin de soutenir l'insertion professionnelle de personnes réfugiées dans la restauration. Parmi les boulangeries participantes, Tenbel, Emma Duverré, Fadoli à Marseille, si vous êtes boulanger et que vous avez envie, avec votre enseigne, avec votre boutique, de participer, vous contactez le Refugee Food. Le contact est sur notre site. Et ça permettra de continuer encore et toujours de prouver que la table est l'un des plus beaux lieux pour faire société.
Et on salue les actions du Réchaud et du
Refugee Food et de bien d'autres associations qui sont fragilisées en ce moment particulièrement.
Absolument.
Ça, c'est top. Vraiment top.
Merci beaucoup, Elvira Masson. Une nouvelle douceur signée Philippe Contissini vient d'atterrir sous vos micros. On a toujours sous la main Maggie, élève de 3e en stage à France Inter. Qu'est-ce que tu penses de ce gâteau? Est-ce que tu peux en prendre une petite bouchée et nous dire ce que tu en penses? Tu peux même y aller avec les doigts, hein, si tu veux.
Ok.
Si je peux me permettre, il faut le sentir avant.
Bah déjà, je trouve que ça sent un peu le pain d'épices. Ma mère, elle adore faire un carrot cake et je trouve que ça sent un peu pareil.
C'est un compliment.
Elle est forte, Maggie, quand même.
Ah, le carotte cake de maman, ça lui fait quelque chose.
Elle a lâché les deux mots-clés qu'il fallait, en fait.
Ah, oui, absolument.
Bravo, Maggie.
Bravo. Tu as deviné sans avoir goûté. Trop forte.
Ça sentait.
Et la texture est d'un moelleux.
Il y a de l'épice à pain d'épices. Et il y a un peu de cannelle, mais pas trop. Mais il y a surtout cette épice à pain d'épices. Et il y a de la vanille, un petit peu, mais pas beaucoup. La vanille, ça apporte une certaine rondeur.
Et Philippe, ça cracouille un peu, non?
Légèrement, oui. Oui, parce qu'il y a des fruits, quelques fruits secs caramélisés. S'il lui met de la noisette, par exemple, la noisette, quand elle est bonne, ça a beaucoup de goût. Et ça a tendance à prendre un peu le pas sur la gourmandise globale du produit. Je caramélise pour que ça ne prenne pas le pas, mais que ça ait le goût, quand même.
C'est ça. Et nous sommes en train de déguster votre vision, Philippe Contissini, du...
Carotte cake.
Carotte cake.
Sans glaçage dessus, alors que j'adore le glaçage.
Il y a de la carotte, quand même.
Ah ben, il y a une tonne de carottes, mais si je peux me permettre, contrairement à quelqu'un qui va dire le contraire tout à l'heure, un carotte cake réussi, c'est un carotte cake qui ne sent pas la carotte. C'est pas comme le gâteau à la carotte portugais qui lui doit sentir la carotte.
Vous avez visé avec votre doigt un certain Loïc Bienassi ?
Bah moi je m'appelle Philippe Mirdebout, donc je pense que non, mais parce que je sens qu'il va dire des choses qui vont me contrarier au plus haut point.
Loïc. D'abord vous réveillez des traumatismes de mon collège avec ce genre de jeu de mots, mais ah oui. J'encaisse.
Ah oui, ça...
Non, oui, il y a une histoire longue pour le carotte cake. Donc, on retrouve l'utilisation des carottes dans des préparations type gâteau dès le Xe siècle à Bagdad, dans un traité culinaire, où on voit un gâteau assez dense, très sucré, à base de miel également. En Occident, 17e, 18e, début du 19e siècle, on utilise des carottes, mais plutôt dans des tourtes, par exemple, ou des préparations type flan. Pas vraiment le gâteau qu'on appelle carotte cake aujourd'hui. Et d'ailleurs, la première occurrence à ma connaissance du mot carotte cake, c'est en 1830, dans un ouvrage intitulé « The Cook's Dictionary and Housekeeper's Directory ». Je parle anglais aujourd'hui, d'un certain Richard Dolby. Mais là aussi, c'est plutôt un type de flan, en réalité, derrière ce mot. Deuxième guerre mondiale, au Royaume-Uni, il y a une promotion des carottes comme agent sucrant, puisqu'on incite les gens à utiliser de la carotte, à faire pousser des carottes et à avoir des potagers. Il y a même un certain Dr. Carrot, un peu une sorte de mascotte qui fait la promotion de l'utilisation de la carotte. Mais il n'empêche que c'est surtout du côté des États-Unis qu'il faut regarder. Pour le carotte cake tel qu'on l'imagine aujourd'hui, il y a des recettes américaines, alors qui assez diverses à partir des années 1910 qui se multiplient, mais la réalité c'est qu'en fait, c'est surtout dans les années 60 qu'apparaît le carotte cake, j'allais dire classique, celui qu'on a tous en tête, avec notamment ce glaçage qui là est absent mais qui normalement fait partie de l'uniforme, j'allais dire du carotte cake tel qu'on se le représente. Donc si on doit choisir un moment de naissance, ça va être les années 60 aux États-Unis. Et c'est vrai que maintenant, il est plutôt omniprésent en France, notamment dans les coffee shops.
Et oui, c'est un peu un totem de ces nouveaux établissements où on sert des cafés de spécialité. Le carrot cake, vous l'aimez beaucoup hein, dans la tradition anglo-saxonne, Alia.
J'adore, avec ou sans glaçage, et j'aime beaucoup le mariage d'épices. Quoi. C'est ça qui me plaît peut-être le plus, même dans ce gâteau.
Ouais. Et le moelleux de votre carrot cake, Philippe, est absolument phénoménal. Il n'y a pas tant de beurre que ça, c'est plus de l'huile neutre.
Oui, il y a de l'huile neutre et surtout de beaucoup d'humidité. Alors les carottes, évidemment. Hein. Vous voyez quand même que pendant la guerre, ils ont un peu...
Les carottes. J'ai jamais dit le contraire.
Pénurie de sucre, et effectivement, on se tournait plutôt vers, peut-être avec la betterave, la racine, le légume le plus sucré du potager.
Absolument.
En pâtisserie, la betterave, c'est vraiment très sucré.
Il date de quand, votre carotte cake, Philippe Contesini? Je ne l'avais pas goûté exactement comme ça.
Non, j'ai travaillé sur le carotte cake quand j'ai travaillé un peu à Londres. C'était en 2014-15, je crois. Là, j'ai travaillé vraiment sur les carotte cake avec un glaçage. Et des noix. Ils aiment bien les noix dans le carotte cake, souvent les Anglais, avec des noix par-dessus. Des cernes de noix concassées. C'est délicieux avec le glaçage, j'adore ça. Mais on m'a souvent dit... Moi, j'aime bien, même je préfère sans glaçage. Donc, c'est toujours mon avis, hein, je préfère avec le glaçage. Mais voilà, cette fois-ci, j'ai fait un carotte cake sans glaçage, et ce qui correspondait bien. Puis dans le contexte du livre, on est vraiment sur les épices, là, vraiment.
Voilà. Et puis il y a un effet très Noël, ce pourrait même être un dessert de Noël, ce carotte cake. Il est tout à fait étonnant et la recette est à retrouver sur notre site. On va se retrouver dans un instant, mon cher Philippe, pour d'autres douceurs que vous nous avez apportées, dont vous allez nous expliquer les recettes. On va même, figurez-vous, s'infiltrer dans une leçon de pâtisserie que vous donnez dans votre atelier parisien.
Take a light and still want more, but don't
The Power de Curtis Harding pour groover aux côtés de Philippe Conticini, un grand pâtissier qui a le power justement sur la scène sucrée. Direction, Philippe, si vous le voulez bien, Place Dauphine.
Oui.
Premier arrondissement de Paris. Je pousse la porte de l'atelier que vous avez monté où vous donnez des leçons de pâtisserie, des masterclass.
Oui.
Et j'ai assisté à une leçon très spéciale de chocolat.
On va déguster. François-Régis Gaudry sur France Inter.
Bonjour messieurs, dames.
Bonjour.
Bah écoutez, je suis ravi de vous accueillir. Je vous présente Anna.
Bonjour.
Aujourd'hui, on va parler de chocolat, évidemment. On va faire 6 préparations. On va faire 4 tablettes que vous voyez devant vous, vraiment simples à faire et surtout à reproduire à la maison. Techniquement, il n'y a pas de tablage, il n'y a pas de tempérage, il n'y a pas de... C'est vraiment simple. Donc 6 préparations, 4 tablettes, mousse au chocolat et biscuits au chocolat doux. Voilà messieurs, dames. J'espère qu'on va se régaler. Vous et nous, je vous souhaite un bel atelier. On est content de vous accueillir. Allez, on va commencer par la simple mousse au chocolat. C'est parti.
Donc là, dans ma casserole, je vais chauffer du lait et de la crème.
Et je mets toujours de la couverture lait dans ma couverture noire. J'adore l'acidité et l'amertume, mais pas dans le chocolat. Donc j'annihile. Ça ne sent ni le lait. Ça laisse toute sa puissance de goût au chocolat noir, la couverture. Toute sa longueur en bouche, sa profondeur de goût. Ça ne change rien. Donc je fais plutôt des gros câlins au chocolat. J'aime bien, moi, les gros câlins. De mémoire, on a 120 g de couverture lait et je ne sais plus combien de noir, je n'ai plus en tête.
300 g.
Voilà, c'est ça. Vous recevrez vraiment les recettes en détail, ne vous inquiétez pas. On y va.
Donc là, mon lait et ma crème sont à 80 degrés et je viens les verser sur mon chocolat.
Alors là, on fait une ganache. Et vous avez vu, on met toute crème lait d'un seul coup. On reste bien au centre, à la verticale, pour créer l'émulsion. Regardez ce que fait Anna, hein, c'est comme une mayonnaise en fait. Hein, l'eau va rentrer dans le gras ou le contraire. Cette technique-là, elle est simplissime. Dans la mousse, vous remarquez qu'il n'y a pas de beurre, pas de sucre, pas de crème montée, pas de jaune. J'ai déparasité complètement. C'est juste une ganache avec des blancs. On va juste mettre un peu de sucre roux dans les blancs pour avoir des microbulles. Regardez la ganache comme elle est lisse, soyeuse, parfaitement émulsionnée. Là maintenant, on va monter les blancs. Alors, si je démarre mes blancs, rapidement, est-ce qu'ils vont monter? Oui. Est-ce qu'ils vont bien monter? Non. Et surtout, ils peuvent retomber, grainer, se séparer plus facilement. Les blancs qu'on va monter là, ils ne retomberont pas. Si vous les gardez 3 jours, ils vont retomber, mais... D'accord? Donc là, on va mettre le sucre dès le départ. Maximum, 20% de sucre par rapport à la quantité de blanc. On va démarrer relativement doucement. Vous voyez, dès qu'on commence à foisonner, il y a des bulles d'air. Il y a bien un moment où ça va s'amalgamer de façon homogène. À quel moment? Vous allez voir, vous voyez, il y a une petite collerette de bulles d'air qui commence à se former, là, sur le pourtour de la cuve. Quand la collerette sera large d'à peu près un bon centimètre, ça veut dire que les protéines seront bien amalgamées. Là, je peux accélérer. Quand on met la mousse au frigo, vous avez des milliers de microbulles qui se démultiplient au fur et à mesure. Vous avez une mousse ultra mousseuse, donc ultra, ultra légère. C'est parti, on va accélérer en 2 fois.
Donc la mousse au chocolat, si vous pouvez la faire par exemple le matin, et vous la mettez au frigo, 6-7 heures, 8 max, vous la mangez le soir. Là, elle sera top.
Comment vous appelez ?
Tanguy.
Je connaissais le chef à travers ses boutiques et ses créations. Et pouvoir assister à une masterclass, expliquer ses techniques, tout ça, c'est vraiment un vrai plaisir. C'est un beau cadeau et je pense que je m'en souviendrai longtemps.
Vous allez reproduire cette recette à la maison ou pas ?
Alors j'espère pouvoir réussir à les reproduire, mais il nous a dit que c'était assez simple, donc il n'y a pas de raison. Je lirai attentivement ce que l'on recevra à la suite de cette masterclass et j'essaierai de les refaire.
Merci.
Merci à vous.
Même quand j'arrête les blancs, j'ai doucement. Vous voyez ? Très léger. En même temps lisse et mousseux. C'est là que j'arrête mes blancs. Je ne monte que très rarement les blancs bien fermes, sauf par exemple pour des macarons.
Donc là, je pars du centre de mon cul de poule et je vais vers l'extérieur. Et j'ai un geste qui est délicat, toujours régulier.
Vous allez avoir une mousse qui va être plus molle qu'une pâte à macaron. Si elle est ferme, ça va vous donner un amalgame d'air et une mousse qui va prendre une structure qui sera très désagréable en bouche. Il faut qu'elle soit semi-liquide. Vous voyez, elle peut même être encore plus liquide que ça, c'est pas un problème. Fouettez-la encore un peu. N'ayez pas peur.
Je n'ai pas perdu une miette de cette masterclass de 2 heures consacrée au chocolat avec un Philippe Contisini tout simplement envoûtant. Tout le monde était hypnotisé par votre savoir, votre humour, vos explications. Et j'ai remarqué, alors un, que votre mousse au chocolat est bel et bien exceptionnelle. Et nos auditeurs et nos auditrices vont la retrouver bientôt parce que j'ai tourné une vidéo pour France Inter.
Super.
Je vous ai shippé la recette,
c'est Philippe Contisini.
Et je me suis rendu compte d'un autre truc, mais je le savais déjà. C'est que vous êtes d'une patience et d'une gentillesse avec tout le monde, qui m'a absolument épaté. Et je me souviens, je raconte une toute petite anecdote. Il y a 25 ans, je crois qu'on se connaissait déjà, Elvira.
Il y a des chances.
J'étais un jeune journaliste, j'avais 23 ans, un jeune journaliste en presse écrite. Ben, on m'ouvrait pas toujours la porte. Et la première grande figure de la gastronomie qui m'a ouvert sa porte, qui m'a reçu, qui m'a accordé une interview, qui m'a invité à déjeuner chez lui, ce fut Philippe Contisini. Mmh. Et j'ai appris énormément sur le goût à vos côtés, donc merci beaucoup Philippe.
Vous me touchez beaucoup là, monsieur Quadri.
Comment ça se passe vos masterclass ?
Ça se passe là maintenant très bien, à partir du moment où ce que vous avez dit, ça se passe très bien. Je suis très content parce que c'est plein pour 6 mois. Alors, il est vrai que je ne reçois pas beaucoup de monde à chaque fois, je veux des masterclass assez... Enfin, des ateliers masterclass assez intimistes, entre guillemets, donc pas plus de 12 personnes, comme ça je peux vraiment être, comme vous dites, proche des gens, etc. Et donc là, elle devrait durer 2 heures, 2 heures et demie, mais elle dépasse toujours, elle dure au moins 3 heures. Hein, non, 3 heures. Donc voilà, les gens sont ravis et je crois que je n'ai jamais eu de gens pas contents, en tout cas on ne me l'a jamais dit. Et puis je leur envoie au moins 90 recettes à chaque fois, quoi. Celles qu'on fait le jour J, plus 75 à 80 recettes que je leur offre. Voilà.
Et ben, en tout cas, sacré programme de masterclass à consulter sur votre site internet. Nous avons Lana à nos côtés.
Bonjour, collège Éric Tabarly en Seine-Saint-Denis.
Et tu es en troisième. Parfait. Et Lana, tu as sous tes yeux un petit objet de forme carrée, à toi de le goûter. Et de nous dire ce que tu en penses.
Oh là là.
Ça vous attrape. Tu aimes pas ?
Ah non, non, j'adore.
Ah. On a eu peur. Difficile, hein, à définir.
Très, oui.
Tu dirais quoi ?
Je dirais croquant.
Mais
croustillant.
Ouais, en fait, il y a une double texture, c'est un peu piégeux.
Moelleux.
Ouais.
Croustillant.
Tu décèles des ingrédients ou pas ?
Non, pas vraiment. Mais ça me fait penser à la pâte à tartiner gavotte.
Ah, ça, c'est, bête, ouais. C'est vraiment pas bête comme
impression. C'est très bien. Mais non, vous les trouvez où, les jeunes de 14 ans
là? Non, mais ils sont incroyables, vous avez vu, ils ont des palais en titane. Hein.
Alors, c'est pas ça, mais ça y ressemble vraiment, quoi. Donc, c'est très bien. Bravo.
Qu'est-ce que vous en dites, les amis?
Mais c'est déroutant parce que c'est effectivement un mix de textures. Il y a du sableux et de l'onctuosité et de la suavité. Donc, je comprends très bien quand tu dis qu'il y a un côté pâte à tartiner, mais solide. Et pas complètement solide à la fois.
Et à la fois crêpe dentelle qui se répand en bouche.
Avec une petite pointe salée.
Oui.
Vous connaissez le petit nom de baptême de cette création, ou pas ? Vous voulez le connaître ?
Oui.
C'est un cracounet.
Mais c'est pas un cracounet.
Un cracounet par Philippe Contisini.
Cracounet.
Définition du cracounet, Philippe.
C'est très personnel ce que je vais dire, mais je n'aime pas ce qui croustille. Même quand on fait un millefeuille, on a beaucoup travaillé avec Gianni, c'est un millefeuille, il fait pas crrrr, il fait crrrr, Et il se mélange à la crème. Moi, j'aime bien quand ça...
Il a été bruteur quand... dans une autre vie.
Ouais, c'est exactement ça. Quand il donne cette sensation-là, il fallait que je trouve un nom qui corresponde précisément à la sensation. J'aime bien que ce soit précis, en bouche, et dans les appellations. Et donc, le seul mot que j'ai trouvé qui ressemblait à la sensation, c'était que ça cracouille. Ça n'existe pas, ce mot-là, j'ai mis entre guillemets souvent. Cracouille, cracouille, cracounet. Voilà.
Incroyable.
Ça cracouille.
Il y a du fondant, du moelleux. Alors, comment on le fait, ce cracounet?
C'est très simple, en
fait. Il y a de la vanille, on le sent quand même.
Il y a de la vanille, il y a effectivement un petit peu de fleur de sel. Et il y a de l'amande, il y a un peu de praliné. On fait des fois ça aussi avec du duja, qui est en fait comme du praliné, mais cru, c'est-à-dire pas de cuisson de sucre. Et souvent du sucre glace. Alors, effectivement, on peut y rajouter des gavottes ou pas. La plupart des cracounets sont faits sans gavotte, qu'avec des fruits secs. Donc amandes, amandes noisettes, noisettes tout seul, c'est rare. Et puis voilà, et tout ça se lie, et parfois, on y ajoute un ciment, entre guillemets, mais un léger ciment, hein, pour que ça cracouille, c'est le beurre de cacao, mais très peu, qui fait office de ciment léger. Voilà.
Oh là là, et c'est une recette à faire en quelques lignes, à retrouver dans votre formidable très bouquin, simple. Le Noël gourmand de Philippe Conticini, chez Albin Michel et Lana, bravo, hein. Franchement... À mon avis, le jour où tu veux faire un stage chez Philippe Conticini, c'est quand tu veux. Enfin, je m'avance peut-être un peu, mais d'avoir trouvé le croustillant de la crêpe dentelle, félicitations. Ouais,
tu me donnes 1000 euros, je t'en prends quand tu veux.
Tu cuisines, Lana, à Noël, avec tes parents ou pas?
Non.
Non.
Je me fais servir.
Excellent. Et moi, je dis ça, je me fais démonter à la maison.
Merci, Lana. On a demandé à Justine Knapp un accord avec le cracounet. Résultat des jeux.
On va déguster... sur France Inter.
Justine Knapp, vous nous apportez le fruit d'habitude rurale viticole.
Chez les vignerons, les vigneronnes, on profite une première fois du sucré du raisin pendant les vendanges avec le jus frais. Mmh. Et puis, technique historique dans certaines régions, on stabilise ce jus sucré en versant dessus une eau de vie. On se prépare une douceur pour le creux de l'hiver. En Champagne, on l'appelle ratafia.
Ça y est, ratafia, ouais. J'adore moi l'accord cracounet ratafia. Ouais.
Donc le ratafia, c'est une production ancienne qui existait avant les bulles. Une boisson domestique faite avec les excédents ou les dernières presses. Une boisson pour la famille qu'on partage pendant les fêtes. En Champagne, ce ratafia, il sort des foyers depuis peu. Avant 2015, il n'avait même pas d'existence légale, reconnu seulement depuis 2022 par une IGP. Et celui que vous avez dans votre verre, c'est seulement la deuxième production commercialisée du domaine.
Et ben franchement...
Qu'est-ce que vous en pensez?
Et ben moi je trouve, alors je sais pas si c'est l'accord avec le cracounet, je trouve à ce ratafia de formidable goût, un goût de noyau.
Mais moi aussi, c'est
un goût amarena.
Oui, oui, c'est vrai.
Ou un goût prune japonaise, amandon. Ouais.
Ouais. Et on tourne effectivement autour de la cerise, du cacao, c'est 17 degrés d'alcool, assez léger en sucre, mais il y en a suffisamment pour faire l'accord avec les pâtisseries. Alors, quand on parle de campagne viticole, on ne se projette sans doute pas tout de suite en Champagne. Le champagne semble naître directement dans les seaux de fêtes fastueuses, dans les mains des vainqueurs ou des signataires. Et pourtant, il découle d'une production agricole sur un territoire habité, c'est du vin. Dans l'imaginaire collectif, la Champagne, c'est le chic de la Marne, Épernay et Reims, mais la région comprend aussi une zone décrochée tout au sud, longtemps mésestimée, exclue de la carte lors des premières délimitations de l'aire d'appellation il y a un siècle. On parle de l'aube du vignoble de la Côte des Barres.
On a donc un ratafia de l'aube.
Un ratafia de l'aube, 32 euros, qu'on peut conserver au frigo plusieurs mois. Domaine Fleury, mené par une fratrie, Benoît Jean-Sébastien Morgan, installé à Courteron, à seulement 8 petits kilomètres de la Bourgogne. L'aube, elle est regardée avec intérêt depuis 20 ans pour sa singularité, à commencer par cette proximité avec la Bourgogne. Les enfants des vignerons se forment à Beaune et pas à Reims. Les sols sont les mêmes, des terres de pinot noir. Donc le pinot noir, c'est 85% des surfaces de l'aube. Et ça donne ces champagnes riches en matière, vineux, structurés qu'on aime à table. Autre atout de l'aube, et pas des moindres, les paysages. Il faut s'imaginer parfois de fortes pentes avec des forêts de résineux au-dessus. La vigne n'est pas exclusive. Il y a des grandes cultures, des pâturages pour le chat-ours, les vergers du Pays d'Hôte pour le cidre. Plusieurs domaines sont engagés en polyculture élevage. Vignes, céréales, cochons, moutons, ils ont l'espace pour. Une jeune génération, domaine Léon ou Petit Clergeau, d'autres avant eux, domaine Olivier Oriot, Champagne Rupert-Leroy. Ces noms, ils ont fait partie d'un bouillon de culture né dans l'aube, de contre-culture qui fait toujours sa force. en 89, Jean-Pierre Fleury, le père de la fratrie. C'est le premier en Champagne à cultiver ses vignes en bio et biodynamie. Beaucoup se formeront auprès de lui. Le domaine Voité-Sorbet suit, l'association des champagnes biologiques se crée. Et à ce moment, début 2000, moins de 1% du vignoble de Champagne est cultivé en bio. Aujourd'hui, c'est 8%, ça reste très faible, très loin des 22% des vignes françaises en bio.
Vous nous rappelez les références de votre cuvée ?
Si on avait besoin de se convaincre de la multiplicité de la Champagne, au domaine Fleury, le Pinot Noir, c'est déjà 3 lectures possibles. Mmh. Le Ratafia, le Champagne, la singulière cuvée Boléro par exemple, et même un vin rouge, Sans Bulle, qui fait partie d'une petite production en Champagne, une goutte d'eau qui existait aussi avant le succès des bulles.
Et dernière chose, Justine, un livre consacré au Champagne.
Pour celles et ceux qui voudraient comprendre ce vignoble, l'autrice Aurélie Soubiran nous facilite l'accès. Elle a démêlé et rangé toutes ses complexités sans ajout de dorure. Champagne aux éditions du Chêne.
Le Ratafia du domaine Fleury, mais qu'est-ce que c'est bon.
Ratafia et Cracounet.
Vous aimez tout cet univers goût de noyau, Philippe Contessini?
Absolument, et il y a quelque chose qui m'a surpris. Effectivement, moi j'aurais pas dit amandon ou noyau, mais j'avais l'impression qu'il y avait du fruit sec, quoi.
Oui.
Et d'autant plus que j'ai mangé un petit bout de Cracounet d'abord, j'ai attendu quelques secondes, et puis j'ai bu le Ratafia. Je l'ai humé, je l'ai fait rouler en bouche, et je l'ai avalé. Et j'ai eu la sensation, moi je dis peut-être une bêtise, mais que le mélange des deux, il n'y en a peut-être pas dedans, portait le goût de l'amande, du noyau, de l'amandon, comme a dit François, et de la vanille, bien plus longtemps. Alors, je ne sais, il n'y a peut-être pas de vanille du tout, mais en tout cas, ça se marrait à merveille.
Hein. Bah, merveilleux.
Franchement, on va goûter dans un instant cette très belle tarte que vous nous avez apportée, dont la recette figure aussi dans votre livre.
Absolument.
J'aperçois de la mangue.
Il y a de la mangue, de la figue, dernière figue, il n'y en a plus après. Mangue, figue, avocat, avec un peu d'huile d'olive, qu'on choisit évidemment, un soupçon de sucre roux et un peu de fleur de sel. Et chèvre frais, évidemment, on choisit son chèvre. Voilà, avocat, figue, mangue, chèvre frais, huile d'olive. Il me manquait du thym citron, normalement j'en mets un petit peu dessus, j'en avais pas ce matin.
Mais attendez, on parle d'une tarte sucrée ou salée ?
Sucrée.
Ah, sucrée, évidemment.
Complètement sucrée. Ah, bah, c'est absolument pas salé.
Magnifique.
C'est sucré.
Vous savez qu'on est déjà obligé de se quitter, Philippe ?
Ah bah non, vous n'avez pas goûté la tarte.
On va la goûter, mais malheureusement, le temps presse. On aurait pu dire aussi de Philippe Contessini, mais vous reviendrez nous raconter vos aventures. Que vous avez été le premier chef à créer un dessert au tabac en 1995 à la table d'Anvers, que vous avez été l'inventeur des desserts en verrine au milieu des années 90, que vous avez révolutionné la pâtisserie traditionnelle et notamment le fameux Paris-Brest dans les années 2009, je crois que c'était 2009.
2009, c'est ça.
Paris-Brest absolument extraordinaire, où vous aviez quand même, vous avez eu la bonne idée de remplacer le beurre par de l'air grâce à la gélatine.
Vous avez été le premier à le goûter, le premier, François Régis.
Le tout premier, absolument, et je vous en remercie. Ouais. Et Philippe Contessini, c'est aussi évidemment ce croissant XXL qui a été posté par une célèbre star qui...
Zendaya et Selena Gomez.
Selena Gomez s'est pris en photo avec votre croissant XXL. Elle a plus de 400 millions de followers et la demande depuis est assez copieuse.
Demandez à Jenny, on en a fait plein.
Le Noël gourmand de Philippe Contessini, gâteau, biscuit, tarte et confiserie pour des fêtes étincelantes. Albin Michel, un très joyeux Noël, c'est
merci
dans 3 jours.
Beaucoup.
Merci beaucoup Philippe d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup.
Merci à toutes et tous. Merci Justine. Merci Loïc. Merci Elvira. Bonne fête à vous. Merci beaucoup Lana.
Merci à vous.
Et bonne fête à toi.
Merci.
Et j'espère que tu apprécieras de te faire servir. Et puis je vous signale une grande actualité pour 2026. Le 1er, 2 et 3 avril prochain, j'aurai l'immense privilège, avec tout le trac qui va avec, de monter sur les planches du Théâtre du Rond-Point à Paris pour vous proposer un cabaret gourmand, un spectacle où je raconte sur scène mon éveil au goût à travers la préparation d'une de mes recettes d'enfance. Et je vais inviter de nombreux complices qui vont venir mettre leur grain de sel dans ce show aux petits oignons.
Incroyable.
Il y aura notamment une certaine Elvira Masson.
J'en parlais pas.
Jérôme Gagnez. Il y aura le bout en train et cuisinier Anthony Coin. Tu auras le musicien et chef d'orchestre Yvan Cassard. Et plein de très belles surprises pour rire, saliver, s'émouvoir et apprendre autour de la gastronomie. Voilà, le cabaret gourmand de Gaudry et ses amis, mis en scène par Simon Delétang, c'est au Théâtre du Rond-Point à Paris, le 1er, 2 et 3 avril. Un spectacle en partenariat avec notre chère radio France Inter. On vous a mis le lien de la billetterie sur franceinter.fr à la page On va déguster. La semaine prochaine, attention, émission spéciale, le grand quiz d'On va déguster. 2 heures pour tester vos connaissances sur la gastronomie en s'amusant avec la bande dont on va déguster. Il y en a 2 là qui vont passer sur le grill. Il y a Elvira Masson et Loïc Bienassi qui vont participer à ce grand quiz.
Pas bis.
Nous aurons également Jean-François Piège, Stéphanie Lequelec et Woogies avec nous. Merci cher public.
Et à dimanche prochain, de 11h à 13h, si vous avez encore faim et si vous avez envie de jouer